Mémoire vive,
présentée par Perrine Carvran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, deux films, une fiction consacrée au procès intenté à Pierre Mendès France pendant la guerre et à sa condamnation pour désertion, et un documentaire consacré à l'aventure du paquebot Massilia qui a transporté, à la veille de l'armistice, 26 parlementaires de la France vers l'Algérie pour constituer une extension de gouvernement qui continuerait le combat contre l'Allemagne. À bord, parmi les passagers, Jean Zay, Georges Mandel et Pierre Mendès France. Ces deux films, diffusés simultanément sur France 2, sont l'occasion de revenir sur le parcours de Pierre Mendès France, qui a fait la carrière politique que l'on connaît, mais qui a été malmené et piégé par le gouvernement de Vichy, qui l'a condamné et emprisonné. Avec nous pour en parler, Laurent Henneman, qui a réalisé le film « Accusé Mendès France » et Simone Halberstadt-Harari, qui les a produits. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je voudrais savoir comment et pourquoi sont nés ces deux projets.
L'intention de départ était d'évoquer Pierre Mendès France autrement que comme la figure politique de la 4e République qui a donné lieu à, est-ce que c'est la légende, la mythologie, en tout cas le consensus qui de nos jours est celui qu'on connaît, et de regarder dans cette période de la guerre, dont il parle brièvement dans Le Chagrin et la Pitié, et on a, pour ceux qui avons découvert ce film quand il était sorti, gardé l'image forte, en particulier ce qu'il évoque de son procès et des conditions de son évasion. Jean-Denis Bredin a consacré, qui a fait un livre fameux sur l'affaire Dreyfus, a fait un autre livre consacré à une affaire qui est justement celle du procès de Pierre Mendès France, qui s'appelle Un tribunal au garde à vous. Et c'est donc en recherchant sur Mendès France et en lisant ce livre qu'il a paru pour moi évident qu'on tenait là un drame avec une unité de lieu et d'action, puisque c'est un procès qui se tient en quelques semaines, il y a quasi jour pour jour 70 ans aujourd'hui, avec des vrais méchants, avec une victime qui est devenue un héros, et avec quelque chose qui n'est pas de l'ordre du compassionnel, mais au contraire de l'ordre d'une très grande force à la fois de résistance, de confiance dans les valeurs de la justice et de la démocratie, et un refus de courber la tête.
Alors justement, le film consacré au Massilia est un documentaire, celui sur le procès de Pierre Mendès France est une fiction. Pourquoi avoir choisi de faire une fiction avec cet épisode-là ?
Ce qu'il y a de magnifique dans mon métier, c'est justement de pouvoir utiliser deux langages visuels différents. Le premier, la fiction, pour parler à un très grand public, en le prenant par la main, en lui racontant une histoire dans laquelle, en ayant choisi, je crois que vous n'avez pas encore dit, Bruno Solo, donc un comédien connu, populaire, notamment auprès d'un public jeune, pour intéresser un large public. La fiction est ce récit qui, je crois, en particulier grâce au talent de Laurent Henneman, vous emballe, vous amène, vous emporte et vous bouleverse. Le documentaire est un genre beaucoup plus exigeant, plus analytique. Alors, grâce à Virginie Linhart, qui l'a écrit et réalisé, là aussi, on est vraiment pris par la main dans une narration très serrée. Mais ça demande quand même de se concentrer. Ce sont des images d'archives, des interviews, c'est de la parole. On vous raconte, là en plus, on le démonte au scalpel de jour après jour, ce qui s'est passé entre le 10 juin et le 10 juillet 1940. Rien que d'y penser, ça me donne encore froid dans le dos.
Alors, Laurent Henneman, quand on voit ce film, cette fiction, on sent bien qu'il y a eu beaucoup de matière, beaucoup de préparation. On voit beaucoup de moments où Pierre Mendès France, donc Bruno Solo, écrit dans sa cellule. Donc on comprend que vous avez eu recours à des textes. Qu'est-ce que vous avez eu comme matière essentielle pour vous appuyer, pour construire cette fiction ?
Mais d'abord, il y avait un scénario d'un garçon qui s'appelle Alain Le Henry, qui était un scénario extrêmement bien écrit, dans le sens où il avait réussi à prendre du Mendès sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, mais en le rendant en dialogue de film, c'est-à-dire en le faisant vibrer, en le faisant vivre. Ça, c'était une chose très importante, c'est que lorsque Simone m'a fait lire le scénario, je l'ai trouvé très bon. Après, j'ai eu une hésitation parce que je me suis dit, il n'y aura pas 2000 films sur Mendès France, et ce film-là, justement, ne marche pas dans les clichés de Mendès. Il marche. On ne parle pas du lait dans les écoles, on ne parle pas de la guerre d'Indochine, on ne parle pas de la Tunisie. Je vous le rappelle que Pierre Mendès France était à l'origine de l'indépendance de la Tunisie. Et donc on ne va pas parler de toute son œuvre, de sa façon d'être, de ce qu'est le mendésisme. Mais je me suis quand même un petit peu renseigné. Je me suis rendu compte que Mendès détestait le mot mendésisme. Et moi, je me suis posé la question, alors s'il détestait ce mot, c'est que ce n'est pas une idéologie. Donc peut-être que dans ce scénario-là, il y a quelque chose qui a à voir avec le mendésisme. Et ce quelque chose, c'est le choix que Simone et Alain Le Henry avaient fait, c'est de montrer un Mendès France combattant, attaché aux valeurs de la République, de la laïcité, attaché aux valeurs de la justice et d'une tradition républicaine. Et se battant pour mettre en avant ces valeurs, tout en sachant qu'en face de lui, il a un régime qui les bafoue. Et voilà, c'est ça le matériel. Alors, le matériel, si vous voulez, après historique et documentaire, eh ben, il y a le livre de Bredin dont Simone vient de parler. Et puis, il y a aussi un livre magnifique qui a été écrit par Mendès lui-même en 1943, qui s'appelle « Liberté, liberté chérie », que je recommande à tous de lire, qui est un livre un peu complexe parce qu'il est écrit pendant la guerre, c'est-à-dire que Mendès ne dit pas tout pour couvrir des gens, pour les protéger, et que d'autre part, il est encore dans l'activité et l'action et la volonté de transformer sa parole en combat. Mais malgré ses réserves, qui sont quand même des réserves tout à fait de pure forme, c'est un livre absolument magnifique et qui m'ont beaucoup porté pendant le film, dans ce que les gens trouvent, un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui est le bon mot, qui est le mot émouvant. C'est-à-dire que c'est un film qui raconte un homme positif, de combat, mais qui raconte aussi son humanité dans ce qu'elle a d'émouvante, et ce qui m'émeut moi, quoi.
Mais on n'a vraiment pas voulu faire un biopic géographique avec des discours et des positions de principe, d'idéologie a fortiori, mais c'est un Mendès pris au piège, puisque la première image du film, il entre en prison, et donc ce sont tous les petits actes de la vie quotidienne, encore une fois dans un espace qui est celui de la cellule et du procès, dans lequel, je dirais, il met sa grandeur dans les petite gorgée de bière, dans les petites choses. Et donc on a un film qui, même pour des gens qui ne connaissent rien à cette histoire ou rien à cette époque, c'est déjà la situation d'un homme. Et on voit tous qu'à sa place, il n'est pas évident d'avoir ce type de maîtrise, de comportement, de volonté, d'optimisme, de clairvoyance. C'est très impressionnant. Et à cet égard, justement, le documentaire, lui, est plutôt la grande histoire, alors que le film est l'intériorité d'une intimité psychologique, alors que la grande histoire, c'est des conseils des ministres. Ça démarre le 10 juin, un moment où le gouvernement est obligé de se replier et de quitter Paris. On voit d'ailleurs que être parti le 17 juin pour Londres et avoir prononcé le 18 le discours que l'on sait montre que le général de Gaulle avait lui aussi une préscience très claire que tout ça était en train de très mal tourner. Et quand le 19, Mendès embarque sur le Massilia, le compte à rebours, il n'a pas plus d'espoir, Georges Mandel ou le général de Gaulle, que n'en a Mendès France.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est dans ces deux films, alors, c'est qu'on rentre dans les coulisses de cette période. Donc, suite à la débâcle, Pierre Mendès France, donc, qui est député, cherche à rejoindre un bataillon combattant de l'armée. On sent qu'il veut en découdre, qu'il veut livrer le combat, qu'il ne veut pas laisser la victoire, une victoire trop facile à l'Allemagne. Puis l'armistice menace. On sent dans le gouvernement, certains sentent que l'armistice peut être signé. Donc il embarque à bord du Massilia sur une initiative gouvernementale d'abord. Donc ça, c'est intéressant de le rappeler aussi.
Oui, donc en tout cas, j'invite les gens à regarder, on ne va pas tout raconter, mais je dois dire que moi-même, je n'avais pas du tout une vision aussi claire que l'armistice était une notion politique qui impliquait de cesser le combat, alors qu'une capitulation militaire, elle, permettait un gouvernement d'exil, qui était d'ailleurs pas forcément en exil s'il était dans nos colonies, qui était à l'époque l'Empire français. Et donc il y avait d'autres solutions. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le documentaire, c'est... moi en tout cas, c'est de montrer que l'histoire n'était pas écrite d'avance et qu'il y a plein de petites décisions qui individuelle, celle du général de Gaulle, plus collective, quand le gouvernement décide de se replier ici ou là, d'évacuer ou de ne pas évacuer. Mais ce sont des petites décisions qui font que, qui montrent d'une façon, je trouve, très responsabilisante, que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chacun, là où il est, peut vraiment en changer le cours. Et ce qui paraît a posteriori, quand on est une génération qui a la chance d'être née après la guerre, ce qui paraît être le cours normal, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, il n'y a pas du tout cette inéluctabilité quand on démonte les décisions et qu'on remet à plat jour après jour ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je trouve que d'avoir obtenu de France Télévisions que les deux soient diffusés le même soir, l'un après l'autre tout de suite, puisqu'il n'y a pas de coupure publicitaire à présent, donne une unité à cette soirée Mendès France qui, je trouve, a une portée très mobilisatrice. Bon, c'est pas d'une gaieté folle, mais encore qu'on le voit, on le sait, la guerre s'est quand même terminée. C'est extraordinairement, ça donne une conscience très forte du poids que les individus peuvent avoir sur les événements. Et évidemment, comme on vit quand même en ce moment une époque qui est également révolutionnaire, c'est une autre rive de la Méditerranée, on se rend bien compte que voilà, l'histoire, pendant qu'elle se fait, ça va dans tous les sens et que certaines personnes voient plus clair que d'autres.
Alors ce qu'on voit bien aussi, Laurent Hennemann, dans votre film, c'est la manière dont le régime de Vichy s'installe sur la ruine de la République et puis sur la calomnie. C'est-à-dire qu'il y a une véritable entreprise de calomnie qui est lancée contre Pierre Mendès France, mais aussi contre Georges Mandel, contre Jean Zay. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui installe le régime.
Ah oui, le procès Mendès France est une vengeance de l'affaire Dreyfus. Hein. C'est sûr que le fin fond, le tréfond de l'antisémitisme, du racisme et de l'arrogance a trouvé là une façon de s'exprimer de la manière la plus odieuse. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est le calme de Mendès par rapport à ce procès, sa certitude dans les valeurs humaines et dans la justesse de son combat. C'est sa réponse. La différence qu'il y a entre Dreyfus et Mendès, il y en a plein, je sais. Mais une des différences, c'est justement que Mendès France est un homme politique et qu'il sait que c'est un procès politique et lui-même feint que ça n'en soit pas un pour mieux dénoncer au moment où il est condamné la dimension politique de ce procès. C'est ce qui fait, à mon sens, la formidable actualité du film. C'est-à-dire, c'est comment être de ceux qui ont un peu de lucidité dans les moments de crise, quoi. Simone rappelait très très justement que pour une toute petite chose, pour un rendez-vous raté ou une décision prise, le destin de notre pays a changé. Et oui, si Georges Mandel était monté dans l'avion avec De Gaulle, et oui, si Mendès avait raté le Massilia comme Blum. Parce que je vous rappelle que Léon Blum, il a raté le bateau. Il devait le prendre et puis finalement, il ne l'a pas pris pour des raisons de transport pratiquement. Toutes ces petites choses qui ne sont pas dans l'inéluctable, mais qui sont souvent dans la volonté des hommes de conduire une idée qu'ils ont de l'histoire qu'ils voient se dérouler devant eux, c'est ce qui fait le côté passionnant de cette soirée, quoi. Et je trouve mobilisateur, pas mobilisateur pour militer, mais mobilisateur pour avoir le goût de la lucidité. Le goût de la lucidité et la dépassionnisation des débats et essayer de voir les choses, d'analyser, quoi. C'est Mendès France, c'est un personnage qui vous oblige à être intelligent.
Oui, d'ailleurs, effectivement, on découvre dans ce film une vraie personnalité. Vous insistez bien sur ses traits de caractère. On découvre son côté légaliste, son côté obstiné. Il dit à un moment dans le film qu'il est cabochard. Il dit à sa femme, oh là là, je t'aurais tout fait. Voilà, et c'est vrai qu'on sent cette personnalité. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'humour, et notamment dans ces scènes où il prépare son évasion, où on sent aussi beaucoup d'autodérision. Il sent que, bon, il n'est peut-être pas assez entraîné. Il faut qu'il s'entraîne. Alors, il fait des pompes. Il se maquille. Enfin, voilà. Il y a comme ça tout ce qui tourne aussi autour de la résistance, de son côté aventuré, du fait que c'était des gens intelligents, lucides, mais aussi des gens qui étaient prêts à prendre des risques.
Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ben ça, je ne veux pas vous raconter le film, hein, j'ai horreur de ça, mais bien sûr.
Et même dans les interstices du film, il se passe presque un an entre l'évasion de Mendès et son arrivée à Londres dans le bureau du général de Gaulle. Cette année-là, qui d'une certaine façon, enfin, qui est présente dans le film et qui n'est pas racontée dans le film. Il a eu je ne sais combien d'identités, dans combien de lieux. Le chemin le plus court entre Clermont-Ferrand et Londres passait par la Suisse, la Bretagne, Lisbonne,
le
retour. Bon, donc c'est sûr que l'ingéniosité qu'il a fallu déjà pour survivre est un signe d'une intelligence et d'un pragmatisme vraiment de génie. Mais ce que Laurent a extraordinairement bien su rendre, c'est qu'il n'y a pas d'arrogance, il y a une épreuve à surmonter. Il faut se souvenir que Mendès France, à ce moment-là, a 33 ans. Il est plus jeune député, plus jeune agrégé, plus jeune tout ce que vous voulez. Il a déjà été ministre dans le deuxième gouvernement Blum, celui de 1938. Et voilà, c'est une épreuve à laquelle il fait face, mais il n'y a pas de grandiloquence, il n'y a pas de désespoir, jamais. Il y a juste des problèmes à résoudre. C'est très extraordinaire, je trouve. Ce que tu dis, dépassionnalisé, il y a à la fois une intensité immense que le comédien Bruno Solo rend très bien, et cette machine cérébrale extraordinaire est au service des petites choses qu'il faut accomplir jour après jour. Et je trouve que cette passion et cette distance coexistent d'une façon très paradoxale et rendent le film très attachant.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on voit les deux films à la suite, parce que ça a vraiment son intérêt, effectivement, parce qu'on a le côté fiction puis le côté documentaire, mais surtout parce que tout ce qu'on a vu dans le film de fiction, c'est-à-dire Pierre Mendès France dans sa prison, Pierre Mendès France, donc c'est le Massilia est évoqué, etc. On le voit avec sa famille dans le bateau. Ensuite, quand on voit le documentaire, il y a toutes ces photos, ces archives, on entend la voix de Mendès France, on voit les photos de ses enfants, de sa femme, on entend son fils parler, et du coup, tout d'un coup, ça prend une épaisseur supplémentaire. Donc, effectivement, il y a cet intérêt de raccrocher l'archive à la fiction pour raconter une histoire.
Oui, c'est exactement ce qui était le but, même si probablement les heures de diffusion font qu'il y aura évidemment moins de gens qui regarderont le documentaire que de gens qui auront vu la fiction. Mais je crois que voilà, c'est quand même dans cet ordre-là et dans cet effet miroir là, qu'il était intéressant d'avoir les deux films. À un moment, le documentaire a failli prendre une autre tournure parce qu'il se trouve donc que ce Massilia a fait se rejoindre Bordeaux et Casablanca et que quand Mendès France a été fait prisonnier et rapatrié en France vers Clermont-Ferrand pour son procès, sa femme et ses enfants sont restés, eux, à Casablanca, espérant trouver ensuite un passage vers les États-Unis. Et en effet, ils sont allés à New York, Mendès ayant bien veillé et recommandé par lettres successives que surtout ils ne viennent pas le rejoindre. Et pendant qu'elle était à Casablanca, cherchant donc une voie de sortie, c'est là où elle a rencontré l'Américain qui ensuite a écrit le livre qui est devenu la base du scénario de Casablanca et le film. Et le personnage d'Ingrid Bergman, c'est Lili Mendès France. Et donc au départ, on avait pensé, s'appuyant sur les lettres d'amour échangées entre eux pendant sa captivité, construire un film plus sentimental, et puis on s'est rendu compte que la matière était évidemment ailleurs, que ce qu'il y avait de psychologique était déjà présent dans le film, et que le documentaire devait au contraire avoir l'extraordinaire rigueur historique que Virginie Linhart a su lui donner.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, alors dans le film, à un moment, vous faites une lecture d'une lettre que Pierre Mendès France a adressée au maréchal au moment où il a été condamné, où il décide effectivement de s'évader. Et c'est un moment très, très émouvant parce qu'on sent que là, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de décision, de l'irréversible, et qui est un écho aussi à des décisions qu'ont pu prendre Jean Zay ou Georges Mandel, qui leur ont été fatales, puisque eux ont été assassinés par la ministre. Pierre Mendès France a eu la chance de s'en sortir. Mais cette lettre, pour vous, c'était important, Laurent Hanneman, de la faire figurer d'une manière ou d'une autre dans ce film ?
Ah oui, c'était fondamental. C'était fondamental parce que c'est la conclusion du type, quoi. Le type se bat avec les armes juridiques. Il n'y arrive pas. Il se bat avec les armes physiques. Il s'évade. C'est une espèce de logique tranquille. C'est une façon tout à fait sereine de concevoir le débat légaliste, puis le débat non légaliste. C'est un peu l'histoire de la résistance. C'est un peu une métaphore de la résistance. Et on dit toujours qu'on ne sait jamais pourquoi les gens sont devenus résistants. Certains ont fui le STO, d'autres étaient communistes, d'autres étaient attachés à l'idée de la France du général de Gaulle, etc. etc. Eh bien, Mendès France, pour moi, ce film, c'est c'est une métaphore de tout ça, de tous ces sentiments mélangés, de toutes ces prises de décision très sereines qu'il prend et qui sont toujours fidèles à l'idée qu'il a de la vie. Et donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est ça le mendésisme. C'est d'essayer d'être loyal avec ce que l'on pense. Et lorsqu'on a le moment où qu'on est en situation d'accomplir ce que l'on pense, le faire et pas faire autre chose. C'est aussi simple que ça et aussi difficile à faire. C'est très compliqué.
Alors, ce qu'il faut souligner, je pense aussi, c'est la façon dont ces deux films évoquent en permanence l'antisémitisme sans jamais en faire le sujet central du film, puisque la plupart de ces décisions, de ces procès iniques tournent autour de cette question de l'antisémitisme. Mais ce qui est intéressant dans le film, Laurent Henneman, c'est que vous évoquez à un moment les avocats de Pierre Mendès-France discutent entre eux et puis évoquent sa passion pour la généalogie. Et puis là, vous évacuez discrètement cette question de la judéité en rappelant que Pierre Mendès-France, en aucun cas, ne se sentait juif. Donc voilà, il agissait. En tout cas, voilà, vous dites que c'était une judéité un peu oubliée, laissée de côté, en tout cas, un petit peu, le point de vue religieux était laissé de côté à ce moment-là.
Son avocat dit ça dans le film, mais lui n'oublie pas sa judéité.
On la lui rappelle.
Oui, voilà, il est tout à fait conscient que ce procès est fait à l'ancien ministre du Front Populaire et à un juif. Mais c'est vrai qu'il fait partie des juifs français, qui était dans un cadre d'intégration et de patriotisme. Alors certains diront qu'ils en faisaient trop sur le patriotisme justement parce qu'ils étaient juifs. C'est un débat qu'on va mettre de côté pour ce film-là. Toujours est-il que ce sont des juifs français patriotes qui se sont battus pour retrouver la République vers laquelle souvent leurs aïeux ont été parce que justement c'était la patrie des droits de l'homme et pas la patrie du maréchal Pétain.
Oui, vous rappelez son grand-père, héros de guerre, son père, héros de guerre. Il y a une grande lignée, effectivement, de patriotisme.
Oui, mais à un moment, ne l'oublions pas, où les polémiques dans la presse sont très fortes et se déchaînent, et où on lui reproche d'accoler France à Mendès, comme si lui-même avait essayé d'usurper une identité qui n'était pas la sienne. Et donc, sa passion pour la généalogie, semble-t-il, est plutôt une curiosité personnelle pour voir à quand remonte l'ancêtre qui avait accolé, ou plutôt qui s'était fait accoler, puisque c'est l'histoire d'un Mendès qui était allé en France, qui avait fait des affaires plus ou moins bonnes, était revenu vers le Portugal et s'appelait Mendès di Francia, devenu Mendès France quand la famille est revenue en France. Mais dans cette polémique-là, qui a dû être très virulente avant la guerre, lui-même avait curiosité et désir de savoir. D'ailleurs, il n'y a pas de trait d'union entre Mendès et France. C'est son patronyme, si vous voulez, un patronyme d'usage, comme l'on dit. Mais comme c'est monté en épingle par des gens qui lui reprochent d'avoir ce nom, ça prend une très grande dimension. Et en effet, le film ouvre, quand il arrive en prison, sur la référence à ses aïeux morts pour la France et qui se sont battus pour la France.
Alors, je pense aussi qu'il faudrait évoquer, donc à la fin de ce documentaire consacré au Massilia, on entend que ce départ l'Algérie est aussi un premier acte de résistance qu'il faudrait mettre à la même hauteur, en tout cas, que l'appel du 18 juin. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez voulu souligner
Non, c'est plutôt qu'on s'est rendu compte. D'abord, l'épisode du Massilia n'est pas très connu. Un certain nombre d'historiens le connaissent, mais il y a un travail très intéressant, un peu d'investigation qui est fait grâce aux historiens qui ont participé au film, grâce aux témoignages de ceux qui ont le souvenir d'y avoir été enfant. Vous avez cité Michel Mendès-France, le fils de Pierre Mendès-France,
ou Edgar Pisani,
fils de Janset, le fils de Huysmans ou Edgar Pisani, en effet. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Churchill attendait Georges Mandel à Londres plutôt que le général de Gaulle, et d'essayer de comprendre pourquoi Mandel, a fortiori même Mendès, mais pourquoi Mandel a choisi plutôt l'Empire que Londres. Vraisemblablement, le fait de vouloir, en tant que juif, être un Français irréprochable l'a-t-il incité dans ce sens. En tout cas, ce débat-là existait. Et à un moment donné, au fond, quelle était la meilleure façon de combattre l'Allemagne? Était-ce de s'allier à l'Angleterre? Était-ce de montrer qu'il y avait un gouvernement français de l'autre côté de la Méditerranée? Voilà, on voit bien que ces deux options les fascinent et font l'objet de discussions entre eux.
Alors, je recommande donc, bien sûr, de voir et ce film de fiction autour de Mendès France avec Bruno Solo et ce documentaire consacré au Massilia, notamment le documentaire pour son générique de fin. On entend Pierre Mendès France chanter deux berceuses à ses enfants. C'est une archive qui a vraiment un charme incroyable. Alors, merci encore Laurent Hellmann et Simone Albert.
C'est mercredi 9 mars.
J'allais le dire, vous me coupez l'herbe sous le pied.
Je vais le redire.
Vos films donc seront diffusés le 9 mars sur France 2 et donc lors de la même soirée sera diffusé le film de Virginie Lénard consacré au piège du Massilia. Merci encore, c'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.